Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le sujet du message aujourd'hui, le titre c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Alors ce message, en introduction, je voudrais dire que c'est pas juste pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, pour rajouter quelque chose à la somme de nos connaissances, de notre picasse, de notre cerveau sur ce qu'on sait sur l'Église, le Saint-Esprit, etc. Premièrement, toujours voir une application directe. Voilà, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, en quoi ça me concerne, en quoi ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser déjà si j'ai une bonne conception de l'Église. J'avais dit il y a quelque temps dans un autre message, renouvelez votre vie d'Église. J'ai dit renouvelez la façon dont vous voyez les choses. Vous n'allez pas à l'Église, vous êtes l'Église. Vous faites l'Église. Donc l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est pas qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire chez les autres ou dans tel groupe local ou même dans l'Église universelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est qu'est-ce qu'il va faire en moi? Qu'est-ce que ça va changer pour moi au quotidien ou quand je rencontre des frères et sœurs ou quand je suis dans la rue et que je veux être un sujet de bénédiction, je veux partager ce que je connais du Seigneur Jésus-Christ avec d'autres. Donc c'est ça l'idée principalement. C'est de voir que je fais pleinement partie de l'Église, je suis moi-même l'Église. Les autres points de réflexion, c'était ne pas aller à des réunions, mais se réunir avec d'autres, le voir différemment. Pas comme un business, une affaire, je vais bosser, je vais travailler pour un patron, des choses comme ça. Mais vraiment, je m'unis à d'autres croyants dans un but, dans une vision, et cette vision a été donnée par le Seigneur lui-même. Donc, voilà. On va pas tout dire de ce que le Saint-Esprit fait, parce que déjà le Saint-Esprit c'est important, on ne parle pas d'une chose, on ne parle pas d'une vague puissance, on ne parle pas de quelque chose qu'on pourrait vraiment dire, on sait tout de lui, c'est impossible, il est parfaitement Dieu. Et donc il a plusieurs œuvres et aujourd'hui dans le partage on va pas voir tout ce que le Saint-Esprit fait. On va se placer tout de suite dans la partie de ce qu'il fait dans l'Église. Parce que d'abord, il a une action à la création. Ensuite, il a une action dans le fait de toucher les gens, quand il essaye de les convaincre qu'ils ont besoin de Jésus. Mais nous, on se place déjà, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de la famille de Dieu, de l'Église, dont nous faisons parfaitement partie. Alors, j'aurais quatre points que... Donc, comme ça, vous verrez un peu où on va et à quelle hauteur on est. Le premier point, ça sera son œuvre, c'est la transformation. La transformation. Ensuite, ce qu'il fait particulièrement dans l'Église en tant que famille de Dieu. Le troisième point, je voudrais énoncer quelques règles d'une vie de famille heureuse, adaptée spécialement à l'Église. Et le dernier point, c'est vous encourager à vraiment vous laisser immerger dans lui ou par lui. Donc, premièrement, son œuvre, c'est la transformation. Je ne vais pas non plus refaire tous les enseignements sur la restauration de l'âme, mais globalement, Dieu nous prend comme on est et il nous aime comme on est, d'un amour inconditionnel. Mais après, il y a des choses qu'il veut transformer, à la fois pour notre bien, parce que normalement, vous n'êtes pas 100% satisfait de votre vie. L'autre soir, comme il faisait beau, beaucoup de gens, après ce long hiver et le froid qu'on a eu et beaucoup de pluie, donc maintenant, ça y est, il fait beau, il y a du soleil, et alors beaucoup de gens sont dehors dans les jardins, sur leurs terrasses, le soir on s'invite, et puis j'entendais des gens autour de nous ils riaient, c'était bruyant, et je me suis dit, comment peuvent-ils être si joyeux alors qu'ils n'ont peut-être pas Jésus dans leur vie. C'était ma réflexion. Et Jésus dit en même temps, et comment les chrétiens peuvent être tellement tristes alors qu'ils ont Jésus. Il faut vraiment s'encourager à dire, mais ne nous laissons pas priver de tout ce que Dieu a fait. Mais des fois, on n'est pas satisfait de notre vie telle qu'elle est. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne se contente pas de nous attirer à Jésus, de nous faire rentrer dans la famille de Dieu. Et maintenant, ça y est, ouf, au moins on sait où on ira pour l'éternité. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc dernièrement, j'ai lu aussi, et je l'ai montré à ma fille, parce qu'ils sont dans un âge où ils font des examens, etc. C'était écrit sur un petit traité, « La vie est un examen. Saurez-vous passer l'examen final ?» L'examen final, c'est quand on se retrouve devant Dieu, est-ce qu'il va nous accueillir ou nous rejeter ? Donc, j'extrapole sur le salut. Mais la vie, bon, moi, j'étais pas totalement d'accord, je crois. C'est pas seulement ça. La vie ne nous a pas été donnée juste pour qu'on voit est-ce qu'on va passer le test. Je veux dire, la vie, c'est plus que ça. C'est tout un apprentissage, une façon de grandir auprès de Dieu, comme nous avons, pour ceux qui ont été bénis par une famille ou des enfants, qu'on a vu grandir, apprendre des choses, etc. Tout était peut-être pas toujours comme on aurait souhaité, mais c'est ce qui rend aussi la vie riche, c'est toute cette possibilité de chacun de faire des choix, de se diriger vers toutes sortes de directions pour ce qu'il aimerait faire. Mais donc à un moment donné, on est dans cette situation, on a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, et on peut maintenant avoir le désir de découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Alors, son œuvre, principalement, c'est la transformation. C'est pourquoi je vais lire avec vous de nouveau 2 Corinthiens 3:18, qui pour nous est vraiment très importante, et d'autant plus que je vous rappelle que lorsqu'on lit dans les Épîtres, c'est vraiment des lettres qui ont été écrites pour nous, l'Église. C'est un courrier qui m'est adressé. C'est pas parce que c'est écrit de Épître aux Corinthiens que c'était bien pour les Corinthiens, ces gens qui habitaient en Grèce autrefois. Mais c'est plus que ça. D'ailleurs, dans une des Épîtres, il nous dit ces choses ont été écrites pour nous. Pour nous qui vivons maintenant. Pas seulement pour les Romains, les Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens 3:18, il nous est dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et je me suis fait cette petite réflexion, je me suis dit, autrefois il nous a dit, Moïse, il mettait un voile sur son visage pour que il nous ait dit que le peuple ne voit pas quand la gloire disparaissait. Quand il était dans la présence de Dieu, ça brillait pendant un temps. Et donc, les gens disaient, oh, il a vraiment été en présence du Dieu d'Israël. Donc, du coup, il y avait du respect pour Moïse. Mais quand ça baissait un petit peu la gloire, alors peut-être le respect et l'autorité de Moïse disparaissaient aussi. Parce que c'était un homme comme nous. C'était pas Superman. Il n'était pas je ne sais quoi. Donc, il avait mis un voile pour que les gens n'attachent plus l'importance sur son visage qu'il brille ou qu'il brille pas. Et donc, j'ai dit, mais nous, on a le visage découvert. Et à l'inverse, nous, on voudrait qu'il brille de plus en plus. Les gens nous demandent, mais qu'est-ce que tu as qui fait que tu brilles tellement? Donc, l'important, ce n'est pas la finalité, c'est pas qu'on brille et que ce soit quelque chose qui soit comme une attraction des chrétiens du 21e siècle. Mais l'important, c'est qu'on réalise l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui est la transformation. La transformation, être transformé, comme le nom l'indique tout simplement, c'est que la forme change. Il y a des choses qui sont reformées en nous. Donc c'est important qu'on réalise ça. Alors, 2-3 points sur l'œuvre de la transformation. L'œuvre de la transformation ne peut se faire que si vous désirez changer. Vous avez remarqué ça. Ce que vous tolérez dans votre vie, vous ne pouvez pas le changer. Si d'une façon ou d'une autre, vous avez décidé, moi je suis comme ça, c'est comme ça que c'est ma nature et on ne peut pas le changer. Donc il est important de faire la différence entre ce qui est notre personnalité. Hein. Vous pouvez aimer des couleurs, l'un aime le bleu, l'autre le rouge, l'autre le jaune. On va pas dire tout le monde doit maintenant aimer le rouge. Et Dieu va vous transformer que vous soyez tous pareils. Il y a une différence. Par contre, si quelqu'un a un mauvais caractère, il va dire « c'est comme ça, je suis comme ça, il faut me prendre avec ma mauvaise humeur, etc. » Ça, c'est quelque chose qui est transformable, à condition qu'à un moment donné, on se dise « ah oui, ben finalement, c'est vrai, c'est pas normal que je sois comme ça. » C'est pour ça qu'on a ce que la Bible dit, quand on s'approche de la parole de Dieu, on a le miroir de la parole. Il y a des choses qu'on voit et donc qu'on se dit « ah oui, c'est vrai. » Certains comportements, certaines attitudes. Donc, peut-être vous n'êtes pas capable de le changer, mais au moins vous pouvez avoir le désir de le changer. Donc ça nous amène directement à un passage de Éphésiens 4 que je voudrais prendre avec vous. Quand je parlais du miroir de la parole, ben là on est toujours dans les épîtres, vous voyez. On a un passage qui nous parle de choses très pratiques, très à la fois spirituellement profondes, mais tout de même pratiques. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Ça nous parle de la transformation du vieil homme dans le revêtement de l'homme nouveau. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc il y a une différence entre avant et après. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et là, des aspects très pratiques de cette vie nouvelle, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Je vous rappelle là qu'on écrit à une église, donc des gens, on pourrait dire respectables, qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, et on a encore besoin de leur dire, ABC, renoncer aux mensonges. Que chacun de vous parle à la vérité, selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Là, on est déjà un petit peu dans ce numéro 2 que je voulais partager avec vous. On est vraiment membres les uns des autres. L'Église, c'est la famille de Dieu. Dans la famille naturelle, des fois, on peut des fois faire des plaisanteries. Vous savez, quand l'un ou l'autre, peut-être un enfant ou quelqu'un de la famille, a un comportement et fait quelque chose de travers, on dit, on le connaît celui-là, qui est-il? On se désolidarise un peu de lui sous forme de plaisanterie. Mais en réalité, il faut qu'on réalise on fait tous partie les uns des autres. On peut pas dire d'une partie de mon corps, ça ne m'appartient pas ou je veux m'en défaire. On a besoin de l'ensemble du corps qui fonctionne. Nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Dérober, ça peut se faire de toutes sortes de façons, hein. Il n'y a pas besoin de prendre une arme et de dévaliser une banque. Ça peut être par la manipulation, ça peut être par la pression, ça peut être par toutes sortes de moyens où on prend quelque chose qui ne nous appartient pas. L'autre jour, j'avais encore envie de m'arrêter. J'aurais dû aller jusqu'au bout. Mais des fois, on veut pas non plus faire les policiers parce qu'on n'a pas d'autorité pour faire ça. Mais je voyais des gens qui s'étaient arrêtés avec leur voiture. Le coffre était ouvert et ils étaient en train de remplir quelques seaux avec le ballast de la voie ferrée. Donc, ils avaient besoin de quelques cailloux. Et je me suis dit, mais vraiment, dans quelle civilisation on vit? C'est que lorsque j'ai besoin de quelque chose, je me sers sans me poser la question à qui c'est ou que ça ne m'appartient pas, tout simplement. Autrefois, nous avions ici dans la région, nous avions beaucoup de gardes champêtres, les gens veillaient sur leurs champs, leurs vergers, et puis on a fait disparaître un certain nombre de fonctions. On n'a plus des personnes aussi nombreuses qui veillent sur tout ça. Et maintenant, il y a des gens qui sortent avec leurs sachets ou même vont avec leur voiture jusqu'à des vergers. Je me rappelle en particulier que mes parents avaient plusieurs pommiers et un poirier à la fin d'une file. On a vu les traces de la voiture dans l'herbe haute qui allait jusqu'au poirier et toutes les poires avaient été prises. Il restait juste une tout au sommet de l'arbre. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses qui se mettent en place où les gens... Ça ne les dérange plus. Donc, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Donc, ces choses doivent rester vives et sensibles en nous. C'est tout simplement, c'est pour ça qu'il dit ici, si du moins vous l'avez entendu et que vous avez été instruit il faut à nouveau instruire les gens sur le vieux commandement, tu ne déroberas point, ou des choses comme ça. Alors, ce sont des règles de vie pour dire aux chrétiens, il y avait une vie avant, et maintenant il y a une vie après. Et faites de l'ordre dans la famille de Dieu pour que vous soyez vraiment dans cette attitude qui honore le Seigneur. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, pour avoir cette vision de je peux être une source de bénédiction et ne pas voir comment je peux me servir des autres à mon profit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, nous avons déjà eu un certain nombre d'exhortations, en particulier dans notre ministère, concernant la puissance de nos paroles. Une fois qu'on a réalisé ça, il est important que notre bouche soit vraiment, qui servent à la gloire de Dieu. Nos paroles sont puissantes, elles sont créatrices, elles peuvent faire des tas de choses même qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et là, je vais vous lire un petit extrait de la quatrième dimension du prédicateur coréen Yonggi Cho. Et donc là, il disait que par rapport à la foi, il faut qu'on apprenne comment ces choses se mettent en route, la puissance créatrice de nos paroles. Il existe un certain nombre d'étapes qu'il convient de suivre pour que la foi puisse correctement incuber. Il dit incuber, c'est comme on pourrait utiliser l'exemple de l'œuf qui doit être couvé par la poule. Donc il y a ce germe de vie dans l'œuf, mais on sait que s'il n'y a pas le travail de la mère poule pour garder l'œuf au chaud et le protéger, le développement de la vie ne pourra pas se faire. Donc même s'il y a la semence de la parole de Dieu au départ, il y a un certain nombre d'autres choses qui doivent se mettre en place pour que ça puisse marcher. Alors, ainsi, une vérité centrale qu'il faut apprendre au sujet du rayon d'action de la foi. Il existe, de plus, un principe de base relatif qu'il faut bien comprendre au sujet de la parole exprimée. C'est pourquoi je voudrais vous parler maintenant de la puissance créatrice de la parole et des raisons pour lesquelles son usage est si important. Un matin, je prenais mon petit déjeuner en compagnie de l'un des plus grands neurochirurgiens de Corée. Il me parlait de certaines découvertes médicales récentes sur la façon dont opère le cerveau. Il m'a demandé, « Docteur Cho, savez-vous que le siège de la parole qui se trouve dans le cerveau règne sur tous les autres nerfs ?» Je me suis alors mis à rire et je lui dis, « Cela fait longtemps que je le sais. »« Mais comment le savez-vous » m'a-t-il répondu. Il s'agit là d'une découverte récente dans le domaine de la neurologie. Je lui ai dit que je l'avais appris du docteur Jacques. Mais qui est ce docteur Jacques, m'a-t-il alors demandé. C'est l'un des plus célèbres docteurs au temps biblique. Il y a près de 2000 ans, lui ai-je répondu. Et dans son livre, au chapitre 3, le docteur Jacques explique que dans les premiers versets, l'activité et l'importance de la langue et du siège de la parole. Le neurochirurgien était complètement émerveillé. « La Bible enseigne-t-elle ce genre de choses » m'a-t-il demandé. « Oui, ai-je répliqué. La langue est le plus petit des membres de notre corps, mais elle peut le contrôler entièrement. » Alors le neurochirurgien a commencé à exposer leur découverte. Il m'a dit que le centre nerveux de la parole avait un tel pouvoir sur tout le corps que le seul fait de parler peut permettre à une personne de contrôler son corps, de le manipuler de la manière dont elle le désire. Il a dit, si quelqu'un ne cesse de répéter, donc ce n'est pas un prédicateur qui dit ça, un neurochirurgien, je m'affaiblis de plus en plus, alors très vite, les nerfs reçoivent ce message et se disent, préparons-nous à devenir plus faibles, car nous avons reçu des instructions de la part de notre siège central, selon lesquelles nous devrions nous affaiblir. Il est ensuite tout à fait naturel qu'ils adaptent leur aptitude physique à la faiblesse demandée. Si quelqu'un dit « Moi, je n'ai aucune capacité, je ne peux pas faire ce travail », aussitôt, tous les nerfs vont commencer à déclarer la même chose. « Oui, vont-ils dire, nous avons reçu de notre système nerveux central une instruction disant que nous n'avons aucune capacité et cesser de lutter en vue d'en acquérir. Nous devons nous préparer à faire partie du corps d'un incapable. » C'est fort, mais réfléchissez un instant. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que l'évolution, c'est le principe que de choses très simples. Déjà, de la non-vie, il y a eu la vie. Et ensuite, d'une vie à l'état microscopique, s'est développé des êtres comme nous, tellement complexes, avec des milliards de possibilités et un cerveau et une capacité de s'exprimer, d'agir dans le monde. Donc, on admet le fait que de la non-vie ou d'une vie infime, s'est développé quelque chose de complexe comme nous, que de nouvelles choses sont apparues. Et là, quelqu'un qui observe le corps humain et son fonctionnement dit que dans l'autre sens, ça peut aussi marcher. Pour moi, ça a du sens. Mais en plus, ça s'est dit simplement dans le domaine naturel. Alors si en plus nous savons que nous avons la vie de Dieu en nous, la vie du Créateur de l'univers est en nous, et cette vie de résurrection agit, alors imaginez. Donc là, il continue, encore un autre exemple. Si quelqu'un continue à dire « Je suis très âgé, je suis très fatigué, je ne peux rien faire », alors très vite, le centre du contrôle du langage répond, donne des instructions en conséquence. Les nerfs répondent « Oui, nous sommes vieux, nous sommes prêts à descendre dans la tombe, préparons-nous à désintégrer. Celui qui persiste à dire qu'il est vieux va bientôt mourir. » Le neurochirurgien continue en disant « Un tel homme ne devrait jamais prendre sa retraite. Lorsqu'un homme part en retraite, il ne cesse de se répéter « Je suis en retraite ». Alors tous ses nerfs commencent à répondre à ce message, perdent leur activité et ils se préparent à une mort certaine. Quand on voit tout le combat entre la mort et la vie dans notre être tout entier, on ne peut être qu'encouragé à dire « Permettons à la vie de Dieu de nous régénérer tous les jours et profitons de cette vie en abondance. » Même, je sais qu'il y a des obstacles, il y a des moments où c'est difficile, etc. Mais ayons cette ligne de conduite. Ne permettons pas, justement, qu'il sorte de notre bouche une parole mauvaise, d'abord sur nous-mêmes. J'ai entendu ça il y a des années, une personne qui était israélienne, même pas chrétienne née de nouveau, simplement elle disait à quelqu'un d'autre, « Ne te maudis pas, ne dis pas des mauvaises choses sur toi. » Et maintenant, continuons. Nous avons vu qu'il faut utiliser notre bouche pour une bonne parole qui serve à l'édification. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est que la vie de Dieu puisse se manifester dans l'Église. Et la vie de Dieu, c'est vous l'Église, doit se manifester d'abord en vous. Il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés, on a mis sur vous un sceau, un tampon, et on a dit, voilà, vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Quelque chose de glorieux, de merveilleux est devant nous. Mais dès à présent, Dieu nous connaît, il a mis quelque chose sur nous, le sceau du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit peut être attristé quand il ne peut pas faire dans notre vie tout ce qu'il aimerait faire pour notre bien. C'est cette frustration de l'Esprit. Peut-être vous l'avez déjà ressenti comme une tristesse en vous. C'est pas une tristesse parce que vous étiez abattu naturellement ou que vous étiez dans une phase de déprime ou de fatigue. C'est autre chose. C'est une tristesse selon l'Esprit parce qu'il y a quelque chose que Dieu aurait voulu faire pour vous et que vous n'avez pas pu recevoir. C'est comme une personne généreuse veut faire un cadeau et l'autre dit « Non, j'en veux pas ». Oh, il fallait pas. La réflexion spontanée, vous venez chez quelqu'un, vous faites un petit cadeau, il fallait pas. C'est une mauvaise phrase. Ne la faites plus jamais. Soyez reconnaissant. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, c'est qu'il a voulu le faire. Donc, ne lui mettez pas une douche froide en disant « il fallait pas », mais reconnaissez la valeur du geste qu'il a voulu faire. Et par là, vous allez construire quelque chose. Au lieu d'ériger un mur, il fallait pas. Et apprenez à recevoir. Si vous ne savez pas recevoir des uns et des autres, alors vous ne savez pas recevoir de Dieu non plus. Des fois, il y a des personnes qui ne veulent que profiter des autres. Ils ne veulent pas donner. Mais à l'inverse, il y en a, ils veulent toujours faire pour les autres, mais et ils ne veulent rien devoir à personne. Mais je crois que la vérité, elle est au milieu. Il faut apprendre à vivre dans le monde dans lequel on est, où certaines personnes vont nous donner, et d'autres seront celles qui reçoivent. Et c'est pas toujours celles qui me donnent, à qui je donne en retour. C'est aussi le principe que le Seigneur Jésus a dit. Quand vous faites une fête, n'invitez pas. Je dirais forcément seulement des amis, des parents qui feront la même chose pour vous. Mais il y a aussi cette vision que vous pouvez le faire pour quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre. Et à ce moment-là, votre Père qui est dans les cieux, lui le voit. Et lui va vous le rendre d'une autre façon. Donc ça vous fait rentrer dans une autre dynamique que simplement le prêté rendu, qui d'une certaine façon est stérile, parce qu'il ne crée rien de nouveau. Je donne quelque chose, ensuite je rends, et alors que la dynamique de Dieu, c'est une circulation au niveau du corps qui doit se répandre au niveau du monde tout entier. Alors, nous sommes toujours dans Éphésiens 4. Le Saint-Esprit désire faire quelque chose. Et ça se fait par des bonnes paroles. Alors, encore quelque chose très pratique, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. J'ai fait, il y a longtemps de ça, un message sur les habitudes. Comment se débarrasser des habitudes? Je dis, une habitude, ça ne se prend pas d'un jour à l'autre. Une habitude, c'est parce que vous faites d'une façon répétée quelque chose. Donc, vous pouvez avoir une mauvaise habitude que vous avez peut-être vu faire, que vous avez commencé à répéter, et au bout d'un moment, c'est installé, vous avez du mal à vous en débarrasser. Donc, vous ne pouvez pas simplement par un acte de volonté dire, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, aucune parole d'amertume ne va sortir de ma bouche. C'est pas comme ça. En général, c'est pas comme ça. Si Dieu veut faire ce miracle pour vous, je vous le souhaite. Mais en général, c'est pas comme ça. Mais c'est je crois davantage l'illustration que le Seigneur nous a donnée avec la terre sur laquelle il nous a mis, avec les plantes qui poussent. C'est comme quand vous avez un jardin, ça ne devient pas un beau jardin du jour au lendemain. Ça devient un beau jardin si on y prend du temps, on le cultive, on sème ce qu'on veut y récolter et on enlève ce qu'on veut qui ne pousse pas. Et on sait que quand on enlève ce qu'on appelle les mauvaises herbes, quand elles sont toutes petites, c'est plus facile à enlever que si on les laisse pousser. Et dans notre vie, c'est la même chose. Des fois, il faut faire un gros travail et alors on est éreinté parce qu'on a... dans notre famille, pour prendre des exemples concrets, on a trouvé que c'était plus beau de laisser pousser les haies un peu librement, plutôt que de les tailler au carré, comme font beaucoup. Et donc, on les a laissées pousser, mais au bout d'un moment, c'était quand même devenu trop haut. On avait le soleil qui ne pénétrait plus dans notre jardin autant qu'on voulait. Donc, on a commencé à tailler, sauf que maintenant, ce n'était plus des haies, c'était presque déjà des troncs d'arbres pour certains. Donc là, il a fallu scier et tout, c'était plus un petit entretien de jardin. Et donc, dans notre vie, c'est un peu la même chose. Mais que cet objectif soit là, qu'au final, vous dites, dès qu'il y a la moindre occasion d'amertume, tout de suite, dites, non, il y a quelque chose de plus important. Je dois conserver ma joie et ma paix. Je ne vais pas me laisser maintenant gâcher quelque chose de plus important pour moi à cause de ça. C'est une habitude. Quelqu'un vous a fait du tort, une animosité, quelqu'un vous agresse. La façon naturelle, c'est de répondre de la même façon. Clameur, vouloir se plaindre, calomnier. Rappelez-vous, la calomnie, c'est dire du mal de quelqu'un. Il dit, mais il l'a fait, oui, parce que sinon c'est un mensonge. Hein. La différence entre mensonge et calomnie, c'est que le mensonge, vous inventez quelque chose de mal sur une personne. La calomnie, vous dites du mal, même si elle l'a fait. Mais vous continuez de répandre la nouvelle. Et ce n'est pas forcément utile que tout le monde sache que quelqu'un a fait une erreur. Donc, ce n'est en général pas pour le bien de la personne. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. C'est pas juste j'enlève ce qui est pas bien, mais je mets quelque chose à la place. Je cherche des moyens d'être bon. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien? Comment je pourrais aider? Je ne le fais pas au détriment de ma vie, de mon équilibre physique ou même mental. Au point que je donne tellement pour les autres que j'en peux plus. Parce que ça, c'est aussi des trucs dans lesquels nous sommes tombés des fois. En voulant tellement aider, on s'est nous-mêmes épuisés. Dans Corinthiens, il est dit à un moment, il ne faut pas que vous soyez dans la détresse pour subvenir aux besoins des autres. Vous devez fixer votre limite. Jusqu'où je peux aller aider les autres sans que moi-même, ça ne me mette en danger. Rappelez-vous que le Seigneur ne demande pas de nous quelque chose qui soit au-delà de nos forces, quelque chose qu'on ne pourrait pas. C'est souvent nous-mêmes qui nous imposons trop de choses. Des fois, on est dur avec soi. Donc, soyez bons les uns avec les autres. Compatissant. Compatissant, ça veut dire la compassion. Je ressens la douleur de l'autre personne. Je suis vraiment conscient de ce qui se passe. Des fois, on dit on peut ressentir que si on a traversé par là nous-mêmes. Si on a traversé par une situation, Romains 8, 28 nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Ça veut dire que cette chose par laquelle on a traversé, on peut s'en servir maintenant pour aider d'autres qui sont dans la même situation. Mais ce n'est pas d'une manière absolue qu'on peut dire, si tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, alors tu ne peux pas me comprendre. Parce que prenez la personne du Seigneur Jésus. Il y a des choses qu'il n'a pas vécues, puisqu'il était sans péché. Et pourtant, il avait de la compassion pour tous ceux qu'il rencontrait. Mais après, il les a toutes vécues. À la croix, il a porté tous les péchés de l'humanité, tout ce qui s'est passé. Chaque sentiment, chaque souffrance, chaque douleur, chaque horreur que les hommes ont pu faire ou vont encore faire, il les a vécues. Mais nous, par le Saint-Esprit, on peut avoir un cœur compatissant. Et donc, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La base, c'est puisqu'il nous a pardonné. Pourquoi retenir des choses? Rentrons dans cette dynamique du pardon. Et là, on a un découpage dans les Éphésiens, mais il faut vraiment continuer la lecture au chapitre 5. Devenez donc, ça veut dire à cause de ça, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Vous n'êtes pas heureux d'être des enfants bien-aimés de Dieu? Bien-aimés, il n'est pas juste dit vous êtes les esclaves de Dieu, mais plus que ça, bien-aimés. Des fois, je sais que dans les familles, il y a des choses qui ne devraient pas se faire, d'avoir des préférés. Puis ça peut être agréable pour l'enfant de savoir qu'il est le préféré. Et ça, c'est pas bon, il faut aimer tous les enfants de la même façon. Mais là, c'est comme si on a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Mais on l'a tous. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, un bon sacrifice. Sacrifice dans le sens, rappelez-vous, qui nous rapproche d'eux. Quelque chose qui nous rapproche. Pas quelque chose, oh, je voulais pas le faire, mais je le fais quand même, je fais un sacrifice. C'est pas cette idée de sacrifice biblique. Donc, nous en venons encore à quelques règles d'une famille heureuse que vous pourrez alors directement appliquer à votre vie de famille et vous pourrez voir les applications à la famille de Dieu. Un certain nombre de points. La famille heureuse, c'est qu'il n'existe pas de famille parfaite. Vous avez remarqué déjà? Donc, de la même façon qu'il n'existe pas d'église parfaite. L'église de Jésus-Christ, dans son ensemble, n'est pas parfaite. L'église locale, quelle qu'elle soit, n'est pas parfaite. Et si vous cherchez l'église parfaite, on a dit un jour avec humour, on a dit, si vous trouvez l'église parfaite, surtout n'y allez pas. Parce qu'au moment où vous y allez, elle ne sera plus parfaite. Donc, l'église parfaite n'existe pas encore. Elle est en train d'être transformée par l'Esprit du Seigneur. Mais il nous est dit que le bonheur ne nous arrive pas comme un cadeau bien emballé. Mais une famille sera vraiment heureuse si chacun de ses membres a déterminé à mettre en pratique quelques principes suivants. Alors, premièrement, faisons en sorte de ne pas considérer les petites choses quotidiennes de la vie comme un dû, mais au contraire de montrer notre appréciation pour tous les nombreux bienfaits qui nous sont prodigués chaque jour, comme le lavage de nos vêtements, les repas tout préparés, l'argent qu'on nous donne, etc. Toutes les petites choses. Nous avons ce petit champ de table, compte les bienfaits de Dieu. Mais après, je me demande, est-ce qu'on les compte vraiment? Ou est-ce qu'on chante juste le petit chant et après on oublie? Si vous avez un moment, une tentation, justement, d'amertume ou de pas content ou de j'aimerais plus, comptez les bienfaits de Dieu. Moi, j'avoue que je fais régulièrement, je dis ce que j'appelle une prière d'un petit enfant. La prière d'un petit enfant, c'est remercier pour les besoins élémentaires. D'avoir à manger, d'avoir à boire, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir chaud quand il fait froid, d'avoir frais quand il fait chaud, d'avoir de quoi me déplacer, etc. Donc, selon votre cas, vous allongez la liste, mais vous trouvez plein de choses. Vous trouvez peut-être que un tel m'a fait du tort, mais vous allez trouver aussi des gens qui vous apprécient, qui vous aiment, etc. Donc, c'est un choix. Et aussi, je me rappelle d'avoir lu l'histoire d'un pionnier de la foi, et l'auteur disait, quand il était rentré dans cette famille, il était impressionné parce que avant chaque repas, non seulement il faisait la prière pour remercier le Seigneur pour le repas, mais chacun se tournait vers la maman et remerciait spécialement la maman d'avoir préparé. Et je trouvais ça admirable. J'ai pas réussi à le mettre en place dans ma famille parce que ce n'est pas toujours spontané. Mais comme je donne l'exemple depuis des années, peu à peu, ça s'est mis en route qui réalise que le repas n'est pas venu tout seul sur la table. Et que quand les habits salent, c'est pas un petit lutin qui les a lavés dans la nuit, etc., etc. Et que l'argent qu'on peut avoir à notre disposition n'est pas un dû, mais c'est quelque chose qu'on reçoit comme une grâce, etc. Et donc là, je fais chaque fois le parallèle. Dans l'Église aussi, ne considérons pas que les choses de l'Église, tout soit un dû. Est-ce que c'est certaines Églises, leur principale préoccupation, c'est est-ce que les sièges sont bien confortables, est-ce qu'il y a la climatisation, est-ce que le parking est bien accessible, tout est orienté vers la personne et tout est tout à fait normal et dû. Non, l'Église, c'est le rassemblement des gens qui connaissent Jésus. C'est pas une espèce de service public ni de société de consommation. J'ai payé, donc j'ai droit à. C'est une autre dynamique. Comme dans la famille, certaines personnes peuvent pratiquer le fait de donner un petit peu d'argent de poche à leurs enfants, mais l'enfant n'a aucune revendication à avoir quant à un montant d'argent de poche. C'est ce que ses parents veulent bien s'ils peuvent lui mettre à disposition, etc. Donc, il faut sortir d'une phase de revendication de ce qu'on doit me donner dans une phase de reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire reconnaître les bonnes choses qui sont ici présentes. Donc pour l'Église aussi, ça peut être ceux qui ont nettoyé la salle, les repas préparés, ça peut être celui qui a préparé pour partager la parole ou celle qui a préparé ou les chants qui ont été préparés dans la prière ou ceux qui se sont entraînés, exercés. Il y a des personnes. Et c'est pas du tout pour blâmer qui que ce soit. Il y a des personnes qui, dans le culte, n'auront eu aucune part dans la préparation. Et ça peut être valable dans une famille aussi. Si j'invite quelqu'un, je dis pas, tu viens une heure avant, parce qu'il y a la cuisine à faire, il y a la table à préparer, etc. Donc, il se peut qu'il y ait des invités qui soient tout simplement invités. Ils profitent des bienfaits qui sont dans la maison. Et c'est pas un problème. Maintenant, je peux avoir dans l'église, comme dans la famille, des petits-enfants. On va pas dire au bébé, aujourd'hui, c'est ton tour de préparer le repas. Donc, il y a un temps de croissance qui fait que on va attendre que la personne puisse prendre part ou non. Mais toutes ces choses sont dans le naturel. Donc, les offrandes, l'argent qu'on donne dans la famille ou les offrandes qu'on donne dans l'église, c'est pas un dû. On va dire, t'as déjà donné, non, offrande, cadeau, ça veut dire ce que volontairement je veux donner pour Dieu. C'est pas quelque chose que je dois payer. Et donc chacun peut faire sa part, prier, donner, aller. Numéro 2, acceptons sur le même pied d'égalité aussi bien les joies et les plaisirs du foyer que ses besognes et ses responsabilités quotidiennes. Et cela sans murmurer. La clé, elle est où? C'est comme dans l'Église, la clé, elle est où? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on aime, tout de suite ça va mieux. Tout de suite ça va mieux. On a plaisir à faire. Alors, mon conseil, c'est, au lieu d'être dans une situation de bras de fer dans vos relations les uns avec les autres ou dans l'Église, mettez-vous sur un plan plutôt relationnel. Dire, poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Et pourquoi tu es dans cette attitude? Est-ce que tu trouves normal que, par exemple, ça soit moi qui fasse tout? Ou de poser ces questions et que la personne elle-même réponde en disant, est-ce que c'est normal que ça soit toujours la même personne? Comme Marthe disait, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai à faire et ma sœur, elle fait rien. Bon, là, c'était on en a discuté dernièrement avec Joël. On a dit, chacun doit avoir un peu de Marthe et un peu de Marie. S'il n'y a que d'une sorte, ça ne peut pas aller. Donc, sachons que, tant dans la vie de famille que dans la vie d'église, il peut y avoir des joies et des plaisirs, et il peut y avoir aussi des besognes. Ce mot n'est pas très heureux, mais c'est une réalité. n'est pas toujours agréable. Mais si on le fait dans une bonne attitude, ça aide. Numéro 3. Efforçons-nous toujours de trouver quelque chose à louer avant de critiquer. Lorsque la critique devient nécessaire, nous la ferons toujours d'une manière constructive. Veillons à nous soutenir mutuellement plutôt qu'à nous détruire. Ah bon? On se détruit dans l'Église? Oui, c'est des fois possible. C'est pour ça que dans Galates, on a ces lettres qui sont écrites pour nous. Au chapitre 5, verset 13, il nous est dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et moi, je souhaite aussi que dans les foyers, il y ait une liberté. On ne se dise pas « c'est le règlement, comme dans une caserne militaire. Hein, tout le monde fait ça. » Et donc, il doit y avoir une liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il nous a dit « Ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc si on se permet, on parle de paroles mordantes des fois. Des paroles donc on peut tous avoir un moment, d'impatience ou de trop plein, où une parole mauvaise peut nous échapper. Mais si on trouve ça normal de s'agresser en permanence, il va y avoir une destruction qui va s'opérer. Et alors, finalement, plus personne n'est heureux là-dedans. Même si vous triomphez dans le sens que vous arrivez à imposer votre point de vue, vous êtes quand même perdant. Réalisons, numéro 4, l'importance de faire des efforts et de persévérer, de s'encourager mutuellement. Je sais que le mot « effort » souvent n'est pas très populaire, parce que partout, on nous demande de faire des efforts, encore des efforts. Mais il y a quand même des choses que nous pouvons mettre en route. Et donc, il nous est dit dans 2 Pierre 1, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre. » Et nous voyons là cette illustration quand il est dit dans Jean aussi que marcher par l'amour n'est pas quelque chose de pénible. Alors quand il est dit à cause de cela, c'est à cause de quoi? À cause de ce qui est écrit au-dessus. Sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc la gloire et la vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Vous êtes participants de la nature divine dès à présent. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous rappelez, c'était en Éphésiens aussi, les païens qui connaissent la corruption. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La foi, c'est la confiance. La vertu, c'est cette capacité de nous diriger vers ce qui est bien. La connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Piété, c'est l'attachement à Dieu. À la piété, l'amitié fraternelle. C'est important d'avoir des amis dans l'Église aussi. Des gens avec qui on peut parler, amitié, que partage la même âme. On a des choses qu'on peut échanger avec quelqu'un. Et ce qui couronne le tout à l'amitié fraternelle, l'amour. Et il nous est dit, car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il nous dit, c'est comme ça que l'entrée dans le royaume de Dieu nous est largement ouverte. Et on expérimente vraiment le royaume de Dieu sur terre. La vie de Dieu se manifeste et ensuite il se crée une atmosphère. Numéro 5 pour la famille heureuse, n'offrons pas plus de gentillesse et de considération, de compréhension à ceux de l'extérieur de la famille qu'à ceux de l'intérieur. Des fois, on veut faire tout pour paraître par rapport aux invités ou aux gens de l'extérieur, mais qui est le plus important? C'est ceux qui sont avec vous après. C'est ceux-là qui devraient avoir de l'importance à vos yeux. Peut-être la personne que vous avez invitée, vous la verrez une seule fois dans votre vie. Mais ceux qui font partie, votre conjoint, les enfants ou vos parents, ça c'est des gens avec qui vous serez longtemps. Et c'est ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que vous voulez le plus voir bénis, heureux, etc. Donc, ne les dévalorisez pas. Des fois, pour paraître, on a vu des stupidités du style un mari qui humilie sa femme publiquement ou qui se moque d'elle ou des choses comme ça. Ces choses ne doivent pas arriver. Et qu'au contraire, on entende à l'intérieur des expressions telles que « s'il vous plaît »,« merci »,« je t'aime » et qu'elles soient souvent entendues. Je pense aussi par rapport à l'Église. Si maintenant une personne non convertie vient, pas encore chrétienne, on pourrait faire tout en direction de cette personne et vouloir paraître et négliger les frères et sœurs qui sont avec nous toute l'année. Or ça, c'est la famille de Dieu. L'autre personne, on souhaite pour son bien qu'elle puisse faire partie de la famille de Dieu, mais à nos yeux, elle n'a pas une importance plus grande que les gens qui sont de la famille. Donc, soyez attentifs à cela aussi. Numéro 6. N'exigeons pas un comportement parfait de la part des autres membres de la famille, alors que nous ne pourrons pas l'offrir nous-mêmes. Lorsque nous manifestons un mauvais caractère ou que nous avons tort, sachons l'admettre et nous en excuser. Le pire qu'on puisse faire, c'est quand on est dans une position d'autorité, de croire qu'on va perdre le respect parce qu'on avoue une erreur. C'est l'inverse qui se produit. C'est quand on cherche à se justifier et surtout montrer qu'on ne se trompe jamais, que alors on perd tout respect. Au contraire, même un parent ne perd pas l'autorité et ne perd pas le respect de ses enfants en admettant qu'il a tort. Donc c'est important que nous puissions le comprendre. De la même façon que dans l'Église, on peut aussi comprendre qu'il y a différents degrés. Le comportement parfait, les exigences ne sont pas aussi importantes pour ceux qui sont en Christ depuis longtemps. Hébreux 5 nous dit « Vous qui depuis longtemps êtes en Christ, vous devriez être des maîtres » que pour celui qui vient de naître de nouveau hier soir. Donc c'est la même chose. Donc les petits-enfants aussi, je prends souvent cet exemple, mais au début, ils ne font rien dans la famille et après, peu à peu, on peut les aider, ils peuvent aider à mettre la table. Je pensais que bibliquement, c'est exactement ce que nous faisons ici dans l'Église. Les petits-enfants nous aident pour la table du Seigneur, pour la Sainte Cène. C'est une façon de les introduire, mais ils peuvent faire d'autres choses. Mais c'est une façon d'aider et d'être actif dans ce qui se passe. Le 7, faisons tout pour nous rappeler en tout temps que les personnes ont plus d'importance que les choses. C'est la définition du matérialisme. Quelqu'un qui a beaucoup de choses matérielles peut ne pas être matérialiste, parce que c'est une question d'attitude. Et quelqu'un qui n'a rien peut être très matérialiste, parce qu'il est obsédé par les choses. Il les convoite, il les aimerait, il peut être capable de faire tout pour les obtenir. Donc c'est pourquoi, encore une fois, les 10 commandements nous sont rappelés, hein, tu ne convoiteras pas. Maintenant, on peut l'étendre à plusieurs autres choses. Ne convoitons pas la nouvelle voiture du voisin, ses appareils électroniques, sa position sociale, sa maison, etc. Au contraire, donnons la priorité au développement de qualités importantes aux yeux de Dieu, comme tout le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et là, ça montre que vous n'êtes pas matérialiste. Donc, utilisez les choses pour bénir les personnes. Mais n'utilisez pas les personnes pour obtenir des choses. Parce que ça, c'est la définition du matérialisme. Je veux utiliser les personnes pour obtenir des choses. Vous voyez aussi les applications dans l'Église. Vouloir se servir des gens. Et ça, c'est vraiment honteux. Mais des gens qui s'appellent soi-disant serviteurs de Dieu, qui en réalité... on nous voit un comportement où ils oppressent le peuple pour l'obliger, le manipuler, le contraindre à donner des choses. Donc, ils se servent des gens pour obtenir des choses. Ça montre ce qui est dans leur cœur. Matérialisme. Et pas aucune attitude spirituelle, aucune attitude de ce qui est important aux yeux de Dieu. Le 8e et dernier point pour les règles familles heureuses. Acceptons tous ceux qui habitent dans notre foyer comme un don de Dieu destiné tout spécialement à favoriser notre croissance et notre épanouissement. Un jeune s'est ouvert à moi il y a un moment déjà de ça. Et il m'a dit que ses parents chrétiens ont dit « Nous croyons que c'est le diable qui t'a mis dans notre foyer parce qu'il avait un mauvais comportement. Mais même si cette parole leur a échappé, vous imaginez comment cette parole peut être gravée dans l'esprit d'un jeune? À l'inverse, ici, nous sommes exhortés à faire quoi? Accepter tous ceux que Dieu nous a donnés dans la famille, à être comme un cadeau. Et même ceux qui nous sont le plus pénibles, des fois nous servent le plus pour notre sanctification. Parce que c'est là que, quand il y a conflit, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi lui, il agit comme ça? Il y a des gens qui étaient désagréables dans ma vie, par le point de vue professionnel ou autre, ou spirituel, mais finalement, ma réaction dans la situation, pour certaines choses, m'a aidé vraiment à grandir. Parce que je l'ai vu comme un défi, même si ce n'était pas agréable. C'était pénible de les côtoyer ou d'être sous leur joug, et on aspire à la liberté, etc. Mais voilà quelque chose qui peut nous aider. Je ne dis pas que c'est facile, mais qui peut nous aider de dire, cette personne m'a été donnée comme un cadeau de Dieu, destiné tout spécialement à favoriser ma croissance et mon épanouissement. Et comme Pierre, à un moment, avait trahi Jésus, il l'avait renié, mais Jésus avait déjà en vue quelque chose pour le futur. Il a dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parce que maintenant, Pierre pouvait plus dire, même si tous les autres t'abandonnent, moi jamais je t'abandonnerai. Maintenant, il pouvait plus le dire ça. Il pouvait plus se mettre dans une position en dire, moi je suis quand même le premier des apôtres. Hein? Je suis destiné à être le premier pape ou je ne sais quoi. Il pouvait plus. Tout le monde le sait. Pierre, tout le monde entier connaît l'histoire maintenant. Ça a été écrit dans plusieurs évangiles. Paul a cru bon d'en rajouter une couche en lui montrant combien il était hypocrite dans l'épître aux Galates, que d'abord il mangeait avec les païens, ensuite quand les juifs sont venus. Donc, Pierre, on le connaît. Il n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Mais, en même temps, ça développe en lui maintenant une capacité d'accueillir aussi ceux qui ont des fois des moments difficiles, qui ont chuté, qu'il faut relever, des personnes qui, oui, sont faibles de caractère peut-être à certains moments et ont choisi de renier plutôt que de rester fidèles jusqu'à la mort, ou certains qui sont tentés d'être hypocrites parce que c'est plus convenable dans le groupe dans lequel je suis. Et donc, toutes ces choses, vous voyez, on peut rebondir dessus. Donc, sachons nous encourager mutuellement et accepter tous les risques et possibilités d'échec de chacun. Soyons surtout bien conscients de nombreuses possibilités de réussite. Jésus ne s'est pas trompé en choisissant Judas. Mais il ne l'a pas non plus choisi en disant, c'est lui qui va me trahir, je vais l'utiliser. Et non, nous ne savons pas comment les choses auraient pu se dérouler. Mais nous savons que les choses n'étaient pas forcément destiné à se dérouler d'une certaine façon, puisque chacun de nous a des choix de mort et la vie, choisit la vie. Mais il se trouve que dans son équipe, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas parfaits. Et quelqu'un dit une fois, que pensant entendre la voix de l'Esprit, qu'il dit, mais tu crois que tu es mieux que moi? Moi aussi, le Seigneur, j'ai eu des gens dans mon équipe qui n'étaient pas parfaits. Donc, travaille avec ceux que Dieu t'a donné. Vie avec ceux que Dieu t'a donné. Famille, amis, vie d'église. Si on a cette vision que des gens sont des dons de Dieu pour nous, alors, mais plus rien ne peut nous arrêter. Parce que ce que quelqu'un dit, ce qui pourrait être une pierre d'achoppement, finalement devient la première marche pour nous élever. Au lieu de trébucher sur la pierre, ben on se met dessus et on monte et on grimpe. Je trouve que ce genre de choses sont formidables, de pouvoir développer une mentalité comme ça. Mais vous savez qui avait cette mentalité? C'est Josué et Caleb. La Bible nous dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. C'est pourquoi ils étaient les seuls sur 600 000 hommes d'Israël. Deux seulement sont allés dans la terre promise. Ça fait un peu peur des fois, mais le résumé est encore le même du temps de Jésus. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, oui, mais peu d'élus. Peu, finalement, vont jusqu'au bout. La route de la perdition est large. Et même ceux qui ne sont pas perdus, mais qui dispersent leur vie, c'est facile de se laisser aller avec le flot. Mais pour remonter le courant, ben, il faut être vivant. Hein. Il faut le vouloir. Donc, Pour terminer, laissez-vous vraiment immerger dans le Saint-Esprit. Éphésiens 5 nous dit, vraiment laissez-vous remplir, continuellement remplir à nouveau. Et j'ai pensé qu'une douche, c'est bien, mais des fois un bain, c'est mieux. Quand il fait, pour nous par exemple, quand il fait très chaud, vous pouvez avoir chaud, transpirer, prenez une douche, ça vous rafraîchit, ça vous fait du bien. Mais des fois, vous avez besoin, parce qu'il fait tellement chaud, de rafraîchir même la température du corps. Et je dis la même chose pour nous. Des fois, on peut recevoir quelque chose de Dieu qui nous fait du bien. Mais il y a une différence entre cette petite source d'eau vive qui coule jusque dans la vie éternelle et avoir cette abondance d'eau, des fleuves de la vie qui coulent vers d'autres et qui peuvent bénir non seulement vous, mais encore bien plus. Alors, ce qui se passe dans notre fort interne, dans notre esprit, a un effet immédiatement sur le centre de la parole. C'est pour ça que je vous ai lu aussi cette illustration de ce neurochirurgien. C'est pourquoi le fait de chercher à avoir cette action de l'esprit en nous peut aussi être une source de bénédiction quand on peut prier dans l'esprit, quand on peut laisser le Saint-Esprit agir. C'est aussi quelque chose qui nous aide. Alors, en conclusion, juste n'oublions pas que Jésus est toujours aussi passionné par son Église. Et ça n'a pas changé. Il est passionné par son Église. Il a un projet pour les noces de l'agneau. Il y a un projet pour de mariage, on pourrait dire, qui est constamment devant ses yeux. Et nous, peut-être, des fois, on oublie que Jésus revient pour chercher son Église, mais lui ne l'oublie pas. Et donc, nous devons nous en entretenir, de dire, il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas parce que ça a duré longtemps, c'est pas parce que le temps passe que quelque chose est changé. Ne dites pas, Seigneur, reviens plus tard. D'abord, j'ai des projets, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vivez votre quotidien. Réjouissez-vous des choses que Dieu vous donne. Sachez voir les cadeaux de Dieu autour de vous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.